Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, l'Algérie sans Bouteflika, démission du président après un peu plus d'un mois de contestation hier soir, poussée par l'armée. Joie et méfiance dans les rues d'Alger, nous y serons dès le début de ce journal et nous tenterons de comprendre ce qui se joue dans les coulisses de cette transition. Une roue de secours nommée Corbyn à Londres. Theresa May appelle le chef de l'opposition travailliste à la rescousse pour débloquer le Brexit, ces deux-là vont enfin se concerter. Une réforme, mais quelle réforme pour les retraites? On était parti sur un système de points. Plus on avance, plus il est question de reculer l'âge de la retraite. Jean-Paul Delevoye, haut commissaire à la réforme, met sa démission dans la balance. Il sera l'un des invités du débat des européennes organisé demain soir sur France Inter et France 2. Et dans ce studio, dans 20 minutes, Nicolas.
Benoît Hamon, candidat du mouvement Génération, dont il est également le fondateur. Il est l'invité du grand entretien de la matinale. Dialoguez avec lui dès maintenant vos questions 01 45 24 7000. N'oubliez pas les réseaux sociaux et l'application mobile France Inter.
À la une également l'inquiétude des salariés d'Orange après le réquisitoire sévère de la justice contre leur patron dans l'affaire Tapi. Le roi Pelé et le prince Mbappé côte à côte hier soir à Paris et puis ils font les fous comme des ados. Pourtant ils n'ont plus l'âge. Rencontre avec cette nouvelle espèce qu'on appelle les quinquados.
France Inter.
Alger, 1999, un homme debout jure de servir son pays devant un parterre de dignitaires. 20 ans plus tard, c'est un homme hagard et cloué dans un fauteuil qui a remis sa lettre de démission hier soir. La scène a été immortalisée par la télévision publique algérienne, suivie par la joie dans les rues d'Alger. Bouteflika dégage, cette fois c'est fait.
C'est une victoire, on est fiers, franchement, c'est l'indépendance.
On ne peut pas crier victoire, mais c'est le début de la victoire. On va les chasser tous, c'est un nouveau pouvoir démocratique qui va s'installer ici en Algérie, vraiment qui va représenter le peuple algérien.
C'est juste le départ du président, mais il y a tout un système. Maintenant, on est dans un mouvement qui est mondial, qu'on appelle le dégagisme.
On a gagné que 15-50%, mais depuis le 22 février, on se bat jour après jour, étudiants, médecins, pour une liberté, pour une démocratie. Ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Et on continuera toujours à se battre.
Voilà, Bouteflika dehors, c'est l'armée qui lui a donné le dernier coup de pied en exigeant son départ immédiat dans un communiqué un peu plus tôt dans la soirée. Les militaires qui l'ont mis au pouvoir il y a 20 ans viennent donc de le lui retirer, ce qui rend les Algériens extrêmement méfiants. Mathilde Dehimi, vous êtes à Alger pour France Inter. Cette méfiance, elle est indissociable de la joie qui a éclaté hier soir.
Exactement, Florence. Un moment résume bien cette ambiance de joie et de détermination. Un slogan chanté hier soir devant la Grande Poste. « Vous n'allez pas nous avoir, vous allez tous partir », s'époumonnent les jeunes. « Nous ne sommes pas dupes », disent-ils. « Si cette démission n'est là que pour tenter de sauver le système, ce n'est pas la peine », insiste Farid, qui doute encore beaucoup du soutien de l'armée aux manifestants.
La mafia civile et les partis, le peuple ne va pas accepter aussi une nouvelle dictature militaire.
Vous avez cette crainte aujourd'hui ?
Ben bien sûr. Il faut toujours être vigilant dans ces situations. Peut-être ça sera le premier jour de la liberté des Algériens.
Une liberté pas encore acquise pour la plupart, car pour l'instant le pouvoir garde la main. Il a imposé son scénario de sortie de crise, une phase de transition courte. Ils essaient de nous endormir avant le début du Ramadan. On continuera de manifester tous les vendredis, répondent les Algériens.
Alors Mathilde, justement, qu'est-ce qui va se passer concrètement maintenant ?
Le Conseil constitutionnel va désormais solliciter le Parlement. Le Parlement va ensuite confier l'intérim au président du Conseil de la Nation, le Sénat, dirigé par Abdelkader Ben Salah, autre figure détestée des manifestants, à charge ensuite pour lui d'organiser de nouvelles élections dans les 3 mois de son intérim. D'où l'inquiétude de Florence d'un jeune hier soir. On a la puissance ici, dans la rue, dit-il, mais comment va-t-on faire pour vérifier que cette fois les élections ne sont pas truquées ?
Mathilde Dehimi en direct d'Alger grâce à la liaison satellite de Gilles Gallinaro, d'où le léger décalage que vous avez ressenti. Voilà pour la transition et cette page qui se tourne dans l'histoire de l'Algérie. Pour tenter de comprendre ce qui se passe là-bas, il faut revenir un petit peu en arrière, un peu avant 20h hier soir, ce communiqué menaçant du chef de l'armée contre une certaine bande, comprendre la bande à Bouteflika. Ce qui se joue à Alger, Thibaut Cavaillès, c'est une bataille manifestement entre les militaires et l'entourage du président démissionnaire.
Oui, car à ce niveau de pouvoir, les alliances, Florence, ne sont pas toujours très solides. L'armée, on le sait, tient le pays depuis longtemps, mais là, il y avait un os. La rue grondait contre un Bouteflika qui a, avec lui, tout un clan, dont son frère Saïd. Il y a quelques jours, il rencontrait un ancien président, Lamine Zeroual, pour lui proposer de diriger le pays durant la transition, ce qui n'aurait pas plu au chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, qui, prenant le parti du peuple algérien, du moins en apparence, a demandé à Bouteflika de démissionner la semaine dernière. L'annonce lundi de cette démission à venir n'a pas suffi. Salah y a sûrement vu une façon, vieille habitude du pouvoir algérien, de gagner du temps. Nouvel appel du général Salah hier à la démission sur un ton plus dur, dénonçant, je cite, « l'entêtement et la sournoiserie de certains individus qui œuvrent à faire perdurer la crise ». Mais le départ du Raïs n'est pas pour autant synonyme de la fin de cette crise. C'est désormais le président du Conseil de la Nation, on l'a entendu, qui prend les rênes du pays. Un proche de Bouteflika, le nouveau gouvernement qui reste en place contient lui aussi des fidèles du Raïs, mais aussi le fameux général Salah. Ambiance, quoi qu'il en soit, la rue n'a pas dit son dernier mot.
Thibaut Cavaillès, merci. Bouteflika, 20 ans de règne avant la chute, c'est à retrouver sur franceinter.fr.
Il est 8h06, Florence, le temps et la concertation comme ultime viatique. Cette fois, nous sommes à Londres.
Londres où Theresa May a donc de nouveau demandé à repousser le Brexit au-delà du 12 avril. Et cette fois, il y a quelque chose de nouveau dans la stratégie de la première ministre britannique. Elle va enfin se concerter avec son principal opposant, le travailliste Jeremy Corbyn. Antoine Gignot, c'est ce qu'elle s'était refusée à faire depuis 3 ans.
Fragilisée, contestée dans son propre parti, Theresa May n'a en réalité plus vraiment le choix. Si elle veut réunir une majorité de députés derrière elle, elle a désespérément besoin du soutien des travaillistes.
Ce débat, ces divisions ne peuvent pas continuer plus longtemps. Je propose qu'on s'assoie avec le chef de l'opposition et qu'on essaie de se mettre d'accord sur une solution qui nous permette de quitter l'Union européenne en signant un accord.
Reste à savoir de quel accord on parle. Car à gauche, Jeremy Corbyn se dit ravi à l'idée de rencontrer la première ministre, mais il continue de défendre l'idée d'un Brexit en douceur avec le maintien du Royaume-Uni dans une union douanière. Un scénario à l'opposé de ce que voulait jusqu'ici le gouvernement, s'insurge Boris Johnson, ancien ministre.
Si Corbyn obtient ce qu'il veut, nous resterons dans l'union douanière. Le Brexit est en train de devenir tellement édulcoré qu'il va finir par se désintégrer.
Et la réaction des unionistes irlandais, les anciens alliés de Theresa May, est encore plus cinglante. Après l'avoir diabolisé pendant 4 ans, le parti conservateur sous-traite le Brexit à Jeremy Corbyn. Négociation lamentable. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Réaction laconique à Bruxelles. Soyons patients, s'est contenté de tweeter le président du Conseil européen, Donald Tusk. 2 derniers débats et puis s'en va. En attendant de tirer les conclusions de 3 mois de réunion, Emmanuel Macron sera aujourd'hui à Saint-Brieuc, en Bretagne, pour 2 heures de rencontre avec des maires avant la Corse demain, où le climat n'est pas à la franche hospitalité pour le chef de l'État. Les nationalistes appellent à une journée île morte.
8h08, lui va peut-être rendre son tablier.
Jean-Paul Delevoye, au commissaire chargé de la réforme des retraites, attend une clarification de la part du gouvernement. Ça fait 1 an qu'il négocie avec les syndicats et le patronat sur une nouvelle retraite par points. Mais ça n'est plus ce qu'on entend dans la bouche des ministres du gouvernement. La petite musique du moment, c'est le recul de l'âge de la retraite. Et ça, Yael Gauss, c'est un casus belli pour le haut-commissaire.
À l'origine du malaise, il y a bien le Premier ministre, confirme l'entourage de Jean-Paul Delevoye. Tout est parti de ses ambiguïtés mi-mars à la radio, lorsqu'il associe dans la même réponse la réforme des retraites et le financement du risque dépendance. Faudra-t-il allonger la durée du temps de travail ? Pour Édouard Philippe, il faut se poser cette question. Puis c'est le temps des couacs, les 63 ans d'Agnès Buzyn, avant qu'elle ne fasse marche arrière. Pour les équipes de Delevoye, le mal est fait, la cacophonie persiste, même la droite s'engouffre dans la brèche. Dernière proposition en date, celle de Xavier Bertrand, 65 ans. Or, touché à l'âge, c'est un casus belli pour Jean-Paul Delevoye, lui qui tente patiemment de construire un consensus avec des partenaires sociaux devenus méfiants. L'âge n'est qu'un remède comptable qui accroît les inégalités sociales, répète le haut-commissaire. À Matignon, on démine. Édouard Philippe a ri en lisant Le Canard enchaîné. Pour lui, il n'y a pas de crise. Pourtant, la démission est clairement dans la balance et la balle dans le camp du président qui ne peut pas se permettre un nouveau psychodrame avant même d'avoir conclu le grand débat.
Loin de la retraite du commun des mortels, celle du PDG d'Airbus fait polémique depuis hier avec ce chèque de 37 millions millions d'euros qu'il devrait toucher dans une semaine. C'est excessif, dit le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Ces indemnités décrédibilisent le capitalisme. L'État possède 11% des actions d'Airbus. Autre grand patron, autre problématique, quid de l'avenir de Stéphane Richard à la tête d'Orange contre lui. La justice requiert 18 mois de prison ferme dans l'affaire de l'arbitrage tapis pour le rôle qu'il a joué à l'époque à Bercy. Les salariés d'Orange sont donc assez inquiets aujourd'hui, Laurent Kramer.
Un réquisitoire perçu par les cadres d'Orange comme violent et disproportionné, souligne Sébastien Crozier, administrateur salarié à la tête de la CFE-CGC chez l'opérateur téléphonique.
Beaucoup de salariés nous font part du fait qu'ils trouvent cette réquisition injuste à travers des groupes Facebook, des groupes collaboratifs, manifestent leur inquiétude en nous interrogeant sur est-ce qu'il va partir. Les salariés sont sous le choc.
Le scénario d'une éventuelle condamnation et d'un départ anticipé du PDG n'a jamais été envisagé clairement en interne. Mis en examen, Stéphane Richard n'aurait pas dû renouveler son mandat, insiste de son côté René Ollier, membre du conseil d'administration pour le syndicat Sud PTT.
Ce qui arrive n'est pas forcément une surprise. C'était fort potentiellement prévisible, quoi. Nous avions abordé cette question il y a plus de 5 ans au début où les juges d'instruction ont commencé l'affaire. On avait quand même fait remarquer que pour des salariés dans des circonstances particulières de ce type, en général, on les met en attente au niveau du travail et que donc il fallait peut-être qu'on applique à notre PDG le droit commun dans l'entreprise. Et puis d'un point de vue éventuellement de l'image de marque, est-ce que ça ne risque pas de la dégrader ?
Officiellement, Stéphane Richard n'a jamais enclenché de succession en interne, attendant le verdict des juges d'ici la fin du mois de juin. Sa situation aiguise désormais tous les appétits. En cas de départ, l'État reprendra donc la main pour imposer son candidat.
Laurent Kramer, dans le Sahel malien, la mort d'un médecin militaire français tué hier par l'explosion d'un engin au passage de son véhicule blindé. Le capitaine Lécuras était en mission dans la région du Gourma, à la frontière du Burkina Faso, dans le cadre de l'opération antiterroriste Barkhane. Aux États-Unis, pour qui travaillait cette Chinoise arrêtée hier dans le complexe de Donald Trump en Floride? La jeune femme a réussi à s'y introduire avec 4 téléphones et une clé USB sur laquelle on a retrouvé un logiciel malveillant. Elle comparaîtra en début de semaine prochaine devant un tribunal. Un roi brésilien face à un prince français. Photo pour l'histoire du football. Hier soir, le roi Pelé, 78 ans, le jeune prodige français Kylian Mbappé, le premier considère le second comme son héritier. Ils se sont échangés leurs maillots devant des journalistes du monde entier à Paris, parmi lesquels Cédric Guillou de France Inter.
La légende Pelé à côté de lui, Kylian Mbappé a mis plusieurs minutes à réaliser.
J'ai pas arrêté de le toucher pour voir si c'était réel. Pour moi, c'était la légende absolue. De le voir en cassette était déjà bien, mais de le rencontrer aujourd'hui, c'est une fierté sans nom.
De l'émotion dans la voix de la pépite du football français, adoubée depuis de longs mois par le roi Pelé à coups de tweets élogieux, notamment pendant la dernière Coupe du Monde en Russie, le triple champion du monde brésilien ne tarit pas d'éloges sur Kylian Mbappé.
Un joueur intelligent.
Un joueur intelligent, un joueur rapide
et
imprévisible. C'est impressionnant parce qu'il a beaucoup de bons joueurs, hein, techniquement excellents, mais il joue d'une façon prévisible. Kylian, il a cette façon de jouer.
Au premier rang, durant cette entrevue, la famille de Kylian Mbappé, sa maman, Feiza, aussi émue que son fils.
Très heureuse effectivement de rencontrer une légende du football, mais surtout heureuse de voir le sourire de mon enfant et de le voir aussi épanoui et c'est surtout ça qui comptait aujourd'hui.
Et une maman fière d'entendre également de la bouche du roi Pelé que son fils Kylian aura rapidement le ballon d'or et deviendra tout aussi vite le meilleur joueur du monde.
Cédric Guillou et du foot sous deux autres formes. D'abord sportive avec un résultat. C'est Rennes qui s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France aux dépens de Lyon. 3-2 hier soir. Du coup, l'entraîneur lyonnais Bruno Genesio est en sursis pour la saison prochaine. Enfin, le foot dans ce qu'il a de pire. Ses cris de singe de nouveau sur les terrains du championnat italien contre le milieu de terrain français de la Juventus, Blaise Matuidi et son coéquipier Moïse Keane. Le match a été brièvement interrompu sur la pelouse sarde de Cagliari. Enfin, c'est le nouveau mot à la mode, comme on aime en inventer pour décrire un phénomène de société, pour parler de ces quinquagénaires qui ne veulent pas vieillir. Le sociologue Serge Guérin a trouvé Quinquado, le titre de son livre qui sort aujourd'hui, vous avez compris, Quinca et ado, qui colle bien au profil de ce Parisien qu'a rencontré Maïwenn Bordron.
Vincent a 54 ans et il a un côté adolescent qu'il assume complètement.
Il n'y a aucune nostalgie de l'adolescence, hein. C'est plus une espèce de régénérescence, quoi. C'est un peu comme dans les pubs Evian, vous voyez, vous buvez un verre d'Evian et hop, vous retrouvez l'enfant qui est en vous.
Ce consultant en communication et en instance de divorce, c'est souvent ce qui est à l'origine d'un nouvel état d'esprit chez les Quincados. Vincent est passionné de rock, il a retrouvé une certaine liberté en enchaînant les concerts et les festivals.
Aller à un concert, se mettre vraiment dans la fosse et partir dans un pogo absolument hallucinant et en ressortir complètement en vrac, en se disant mais ouais c'est dingue en fait, je revis.
Revivre, rester jeune dans sa tête, mais pas question de tomber dans la caricature.
C'est toujours la limite de l'exercice aussi, d'avoir cette fraîcheur d'esprit et cette curiosité tout en évitant de singer ou de copier les jeunes. Ça peut être pathétique.
Et Vincent a bien l'intention de rester jeune encore quelques années.
Iggy Pop ou Keith Richards, c'est les exemples de vieux adolescents qui pètent toujours le feu, quoi. Donc c'est ça aussi qui est rassurant, qui dit tiens, bah, finalement, ouais, s'ils le font, je peux le faire aussi.
Pas de limite d'âge donc pour être quincado, mais s'il le faut, Vincent a prévu de devenir sexado, un sexagénaire adolescent.
Voilà, l'histoire ne dit pas si Benoît range sa chambre ou pas, ou s'il mange des tacos en jouant à Fortnite toute la journée, peut-être après tout.
Oui, merci voilà. Florence Paracuelos.